Salut, c'est Gabriel. Tu es sur le podcast Sortir de l'addiction. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial puisqu'on est dans le podcaston. C'est un événement plutôt qui met en avant diverses associations dans le cadre des émissions. Et aujourd'hui, avec Sortir de l'addiction, j'ai choisi l'addiction, les maltraitances. Moi, j'en parle, dont la présidente est Nathalie Cougny. Donc, c'est elle que je reçois sur le podcast parce qu'on va parler de l'état et du constat en fait des maltraitances faites chez les enfants. On va se poser la question de qu'est-ce que c'est concrètement, comment est-ce que ça se définit, qu'est-ce que les parents ont le droit ou pas le droit de faire. Et en fait, grâce à son association, Nathalie, elle met en place des formations de prévention dans les écoles auprès des enfants et des professeurs. Elles ont comme marraines notamment Emma Domas et Elisa Sergent ou encore Clémence Guérant. Donc des personnes issues de l'industrie de la musique, du spectacle, actrices, et Emma Domas, vous connaissez comme chanteuse. Donc c'est une asso assez active et comme vous le savez, dans le sujet des addictions, les maltraitances faites aux enfants, c'est souvent un dénominateur commun chez bon nombre d'entre nous, addicts ou personnes qui traversons des épreuves difficiles et qu'on cherche à fuir ou à compenser avec les consommations. Et donc quand on m'a proposé de réfléchir à une association à mettre en avant, j'aurais évidemment pu choisir une association qui traite les addictions. Mais comme vous le savez, comme vous avez déjà écouté les épisodes sur sortir de l'addiction, moi c'est un sujet, l'enfance, les maltraitances, la violence, c'est des sujets qui moi m'ont concerné et qui concernent aussi certains d'entre vous. Donc j'avais envie d'inviter Nathalie pour un petit peu faire le constat de comment ça se passe dans la société à l'heure actuelle, pourquoi est-ce que les maltraitances faites aux enfants sont devenues aussi communes et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir, quels sont les outils, qu'est-ce qui existe pour qu'on puisse contrer ça et finalement mettre cette cause-là aussi haute et à la hauteur de son besoin, c'est-à-dire de la libération des MeToo, de la libération de la parole des femmes qui peuvent avoir subi des viols ou des agressions sexuelles. Eh bien, il y a une libération à mettre en place et à effectuer au niveau de la violence faite au niveau des enfants, qu'elle soit d'ordre sexuel ou pas, parce qu'elle existe, parce qu'elle est banalisée, parce que malheureusement, elle fait beaucoup de dégâts à l'âge adulte. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais envie d'inviter Nathalie Cougny de l'association Les Maltraitances. Moi, j'en parle, on va parler de tout un tas de sujets, évidemment, liés à ça, liés à l'asso, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, quels sont les résultats des choses qu'elle met en place sur le terrain, et puis qu'est-ce que c'est que la violence faite aux enfants, et on va parler de plein de sujets comme cela. Évidemment, Nathalie a une histoire chargée aussi. C'est pas pour rien si elle a la tête en tant que présidente d'une association de ce thème-là et qui traite ces thématiques. Donc, comme dans tous les épisodes, on est dans un échange, un partage d'expériences et de vécu, etc. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Encore une fois, c'est dans le cadre du podcaston, un événement organisé pour mettre en avant des associations sur des émissions de podcast. Et c'est avec plaisir que j'accueille Nathalie Cougny sur Sortir de l'addiction. Pour rappel, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de s'abonner à sa plateforme d'écoute préférée. Et je suis aussi disponible sur Instagram, à Sortir de l'addiction, et c'est là qu'on peut voir un peu les coulisses du projet et que je partage certaines informations que je ne sais pas partager dans les podcasts. Voilà, sans plus aucune transition, je vous laisse en compagnie de ma conversation avec Nathalie Cougny et je vous souhaite une très bonne écoute pour ce 48e épisode de Sortir de l'addiction. Nathalie, bonjour Nathalie, je suis content,
bonjour Gabriel.
Ravi de t'accueillir sur le podcast. Donc Nathalie Cougny, si je me trompe pas sur la prononciation.
Non, non, c'est bien ça.
Ok, très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous est cher. Toi, t'es carrément engagé à fond dans la thématique. Moi, c'est un sujet qui me concerne parce que je l'ai vécu, qui concerne beaucoup. Beaucoup de personnes dans l'audience du podcast ici Sortir de l'addiction. C'est un épisode qui est enregistré dans le cadre du podcaston qui met en avant des associations comme la tienne pendant le mois de mars, je pense, j'ai plus la date précise. Et j'ai choisi, je t'avais proposé, je t'avais invité parce que j'ai vu ce que vous faisiez, les actions que vous meniez, et voilà, j'ai pas encore trop dit, mais le sujet que tu traites et qui est un de tes combats. Et donc c'est dans ce cadre-là que je t'ai invité. On va parler de tout ça, des chiffres, des constats, un peu de ce qui se passe en politique, de pourquoi ça bouge, pourquoi ça bouge pas. On va parler de ce que vous faites vous à l'association pour faire avancer les choses. Et donc c'est pour ça que j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui, et je te propose tout simplement de commencer par te présenter pour qu'on sache qui tu es.
Merci Gabriel, je suis ravi également de faire ce podcast avec toi sur cette thématique importante qui est vraiment, oui, mon combat et celui de plein d'autres. À la base, je suis artiste peintre depuis 28 ans et écrivain depuis 2011. J'ai été connu grâce à la poésie, ce qui est assez étonnant, mais plutôt bien, parce que la poésie, c'est assez confidentiel. Et puis, mon chemin de vie a fait que j'ai commencé à travailler sur les violences faites aux femmes pendant 12 ans avant de me diriger vers les enfants. Après, j'ai fait beaucoup de choses avec les enfants, j'en ai 4 déjà, et puis j'ai parrainé des petites filles chez moi, 2 petites filles pendant plusieurs années bénévolement. J'ai fait beaucoup d'art aussi dans les écoles, même en halte garderie. Enfin, les enfants ont une importance pour moi, ça c'est clair. Et puis j'ai beaucoup lu aussi de livres de psychologie sur le développement de l'enfant et la psychologie constructive de l'enfant aussi et de l'adulte, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis que j'ai 14 ans. Et voilà, et puis mon chemin de vie, mon parcours même de vie, qui a pas toujours été simple à gérer, on va dire, pour une enfant. Bon, déjà, j'ai pas connu mon père biologique. J'ai été élevé par une partie par mes grands-parents et ma mère qui avait sa vie et son histoire aussi, puisque elle a été victime d'inceste et maltraitée pendant son enfance. Ça a aussi eu une répercussion sur moi. Après j'ai connu un père, puisque ma mère s'est mariée avec un homme qui m'a reconnu, que j'ai adoré. On avait une relation vraiment géniale, qui est mort quand j'avais 14 ans, et là ça a commencé, on va dire, un peu la dégringolade aussi pour moi, puisque j'ai pas fait beaucoup d'études, ça a perturbé beaucoup ma scolarité, parce qu'on s'aimait énormément, et puis comme j'avais pas eu de père depuis toujours, finalement j'avais aussi beaucoup idéalisé la famille, et donc d'avoir un père pour moi c'était comme si j'avais un Père Noël qui arrivait dans ma vie, c'était démultiplié au niveau émotion, sensation, amour, etc. Donc quand il est parti, ça a été dur. Et donc là a commencé un chemin un peu compliqué de rébellion assez importante qui a perturbé beaucoup ma scolarité, qui a amené aussi à pas mal de prises d'alcool, beaucoup de fêtes, de bagarres, etc. Et puis j'ai quand même continué, j'ai comme je dessinais beaucoup et j'étais très bonne en dessin, j'ai fait une école de stylisme. Haute couture, j'étais très bonne en dessin mais très nulle en moulage par exemple, mais bon. Et puis après j'ai fini quand même, pour abréger, par faire un BTS de tourisme, je sais pas par comment, que j'ai eu. Et puis le hasard de la vie a fait après que j'ai travaillé dans une grande entreprise pendant 8 ans. Mais j'ai fait une dépression assez grave après avoir eu ma fille, elle avait 2 ans. Là, toute mon enfance est ressortie, le manque de père, les comportements de ma mère, etc. Donc j'ai fait 1 an d'analyse et 7 ans de thérapie, avec prise de médicaments aussi, jusqu'à trouver un chemin. Aujourd'hui, j'ai 56 ans et il y a encore peu de temps que je trouve encore ce chemin pour m'apaiser avec d'autres moyens. Puis un divorce difficile aussi psychologiquement, avec une histoire pas banale, enfin bref. Donc voilà, aujourd'hui j'ai créé l'association, je pense inconsciemment en lien avec ce qu'avait vécu ma mère. Je le savais pas au départ, maintenant j'en suis à peu près quasi sûr, et surtout aussi pour avoir aidé de nombreuses femmes et des hommes aussi victimes de violences pendant l'enfance, et notamment sexuelles, et je me suis dit, il faut aller vers les enfants. C'est la base, et l'association est partie d'un clip que j'avais réalisé, « C'est mon corps, c'est ma vie », sur les violences sexuelles faites aux mineurs qui a été repérée à l'époque par la mairie de Nice. Et donc, elle m'a demandé si on sensibilisait les enfants. J'ai dit oui, alors qu'on l'avait jamais fait. Et c'est comme ça qu'est parti, en fait, le projet de l'association. On a sensibilisé plus de 200 enfants. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là, réellement, que les enfants ne connaissaient pas les interdits, et notamment des violences sexuelles, et que des enfants nous le disaient ouvertement, avoir été victimes ou être victimes de violences sexuelles sans savoir que c'était interdit. Et ça, ça a été vraiment le choc, le départ de l'envie d'aller vers les enfants. Voilà, okay. En gros, ma vie, pour l'instant.
D'accord, je vois. Et donc aujourd'hui, tu diriges une association, c'est comme ça qu'on peut le dire, ou
Alors j'ai créé l'association. Alors je suis président de l'association. Je suis pas toute seule. déjà j'ai créé l'association avec une amie qui maintenant est partie, mais qui a construit la partie bien-être, puisqu'on a deux séances avec les enfants. Et aujourd'hui on est 13 au conseil d'administration. Et puis on est pas loin de 300 dans l'association, entre les responsables départementaux bénévoles qui développent nos actions dans leur département et les intervenants qui sont des indépendants qu'on rémunère. Donc on est quand même assez, on a beaucoup progressé en peu de temps, puisque l'association a 3 ans et demi, avec beaucoup de demandes, et on a dû s'adapter justement à cette demande croissante, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Donc on est quand même une bonne équipe pour développer ces actions, malgré les freins par moment, et puis résister justement aux freins qui s'imposent à nous parfois.
Ouais, et si tu veux bien, on va commencer un peu par dresser le constat. L'association, je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est les maltraitances, moi j'en parle, je l'aurais sûrement dit déjà en intro de l'épisode. Et c'est d'assaut, enfin c'est sous cette casquette-là hein, que je t'invite aujourd'hui, mais aussi ta casquette personnelle, puisque comme tu l'as dit, ton expérience de vie, on n'est jamais où on est par hasard, des gens comme toi ou comme moi, dans les sujets dans lesquels on est investi. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un peu la partie constat et chiffres justement par rapport aux violences faites sur les enfants. On va parler de la violence physique et psychologique de ce que ça implique l'une et l'autre, et des différences ou pas qu'il peut y avoir. En gros, des types de violences qu'on peut identifier au sein d'un foyer, et puis un peu les chiffres clés quoi de la violence faite sur les enfants en France à l'heure actuelle. Commence par ce qui te vient en premier, si tu veux.
Alors, ce que je voudrais dire déjà, qui est important, c'est que les violences sur les enfants augmentent tous les ans depuis au moins 2012.
Pourquoi 2012, tu sais ?
Bah, c'est à peu près les constats qui sont faits dans les études et les rapports. La violence a toujours existé, puisqu'on est construit en fait sur un schéma ancestral de violence liée au patriarcat. Il faut encore se remémorer que il y a pas si longtemps, c'est le père qui décidait de tout et qui avait la main mise sur sa femme et sur l'enfant. Il y a que quelques décennies qu'il y a l'autorité parentale qui a été mise en place, qui donne la même répartition des rôles et de l'autorité pour la mère et le père, mais c'est récent. Tout ce qui touche à l'enfant, même les études sur le comportement de l'enfant, c'est quand même assez récent. Et donc les violences augmentent tous les ans, qu'elles soient sexuelles ou physiques surtout, mais aussi les violences psychologiques qui sont un petit peu moins, enfin beaucoup moins étudiées. Il y a des études aux États-Unis pas mal qui sont faites sur les violences psychologiques, qui ont un impact énorme sur le développement de l'enfant et les conséquences graves à l'âge adulte. Mais en ce qui concerne les violences sexuelles, il faut savoir que il y a plus de 60 000 enfants qui sont concernés en 2023. C'est les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y en a beaucoup plus, en fait. La CIVIS, par exemple, qui est la commission indépendante sur les victimes d'inceste, estime qu'il y en a 160 000 par an. Le Conseil de l'Europe estime qu'il y a un enfant sur cinq en Europe qui est victime de violences sexuelles. Bon, les chiffres sont là, ils sont énormes. Et sous-estimé, je pense, puisque on dit que la parole se libère, elle se libère pour les adultes, mais les enfants parlent peu ou pas. Il faut savoir que 60% des enfants, par exemple, ne parlent pas des maltraitances qu'ils subissent. Donc c'est énorme. D'où l'intérêt de l'association aussi d'aller aider les enfants à libérer cette parole. Donc les chiffres, c'est un enfant qui meurt par semaine sous les coups d'un parent en France aujourd'hui. Donc c'est un chiffre qui est constant depuis des années, ça change pas. Et puis beaucoup d'enfants victimes de violences sexuelles, je l'ai dit, plus de 70 000, et aussi une augmentation des violences physiques qui se déroulent pour plus de 52% dans la famille. En fait, il faut savoir que les violences en général, ça se passe dans le milieu familial et que l'enfant connaît son agresseur. Il faut pas croire que, par exemple, pour les violences sexuelles, ça se passe dans un lieu inconnu. Ça se passe aussi comme ça, mais la grande majorité se passe dans la famille ou en tout cas un proche de l'enfant. C'est pour ça qu'il faut avoir cette prise de conscience importante pour mettre tous les moyens qu'il faut pour stopper cette maltraitance et informer aussi les parents, parce que toutes ces violences, comme tu le sais, ont un impact très très grave sur le développement. Aujourd'hui, on le sait, grâce à l'imagerie médicale, on voit chez les adultes les zones atrophiées du cerveau des personnes qui ont été maltraitées étant enfants. Donc, on ne peut plus nier cette évidence, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas quoi. Tout est là pour nous le dire.
Ouais, c'est clair. À chaque fois, il y a plein de choses qui me viennent en tête, évidemment, hein, puisque moi, j'ai été concerné par la violence psychologique et physique. Sexuelle, j'en ai aucune idée. C'est bizarre parce qu'il y a des fois, des moments où quand j'entends des personnes témoigner de violences sexuelles, je connecte à leur témoignage et j'ai déjà entendu parler de mémoire sélective, etc. Et je n'arrive pas à savoir si je suis concerné ou pas par ce type de violence, parce que il y a quand même un fait qui était clair, c'est que j'étais la victime, on va dire une victime type. J'aurais pu être une victime type de ce pour ce genre de prédateur, parce que l'état psychologique et la maltraitance que je subissais et l'état psychologique dans lequel ça me mettait faisait que j'avais aucune barrière et que j'étais une proie facile. Et donc c'est un sujet qui me Je ne veux pas dire qu'il me bouscule, mais qui à chaque fois me fait rentrer dans une zone émotionnelle un petit peu particulière.
Alors, moi, j'en ai encore pas parlé, mais j'ai le même sentiment que toi, parce que ma mère ayant été victime d'inceste par son père et moi étant été chez mes grands-parents les premières années de ma vie, et au fil du temps, depuis que je travaille notamment sur les violences sexuelles, je dois avoir à peu près 80% des symptômes de victime de violences sexuelles, et je ne sais pas en fait si j'ai été victime de ce grand-père ou pas, ayant dormi dans la chambre attenante à la sienne. Il faut savoir que la sœur aînée, ma mère aussi, a été victime de ce père. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. J'ai pas du tout de souvenir, évidemment, mais encore récemment. Par exemple, je conduis toujours pas sur l'autoroute, tout ce qui est enfermement, et c'est un des symptômes aussi. Voilà, donc ça m'empêche pas de vivre, mais je ne le saurais jamais en fait. Et quand j'en ai parlé à ma mère, c'est un peu la chose. Bon, moi j'avais ma mère m'a aimé à sa façon, pas toujours très bien, et voilà, c'est pas facile de poser des actes sur le verbe aimer quand on a été victime de violences sexuelles et de violences en tout court, aussi physiques, psychologiques, etc. Mais c'est quelque chose que j'en ai voulu, en fait, de m'avoir laissé chez eux, sachant ce qu'elle avait vécu. Bon, j'ai réussi à pardonner, on en parlera tout à l'heure, mais quand elle m'a révélé cet acte d'inceste, elle avait 60 ans, elle n'en avait jamais parlé à personne, et je lui ai dit, et moi? Elle m'a dit non, sinon je l'aurais tué. En fait, je lui dis, t'en sais rien, parce que ma mère n'était pas là. Elle vivait pas avec moi à cette époque-là. Je la voyais de temps en temps, elle venait de temps en temps aussi. Mais j'étais dans cette maison incestueuse, en fait. Donc c'est assez terrible comme quand on y pense. Mais je ne le saurais pas. Mais j'ai quand même, depuis toute petite, des symptômes liés à ça, quoi. Donc je comprends bien ton questionnement.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. En effet, ça doit pas être facile de vivre avec cette idée et de pas avoir de réponse et en plus d'avoir des symptômes, ça doit être particulier. Ouais.
Après, lors des travaux que j'ai faits personnels sur moi, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, et souvent on m'a dit qu'on ressentait un climat de violence sexuelle dans cette approche que je décrivais. voilà, après il faut avancer. Ce que je fais aussi me permet d'aider aussi, alors de m'aider non, parce que c'est pas le but, et ça je l'ai fait il y a longtemps, mais en tout cas quand j'ai vu l'état de ma mère aussi, son comportement, sa façon de vivre, son rejet des hommes, enfin tous les points négatifs que ça avait impacté sur elle, et puis même toutes les femmes que je connais qui ont vécu des violences sexuelles, toutes disent qu'il y a quelque chose de brisé en elle. Enfin bref, donc si on peut éviter ça et aider les enfants à parler le plus tôt possible pour être pris en charge notamment, et informer les adultes des conséquences et les parents, surtout à parler, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça reste un tabou énorme, et le silence tue, il faut pas l'oublier, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est une démarche essentielle aujourd'hui, alors qu'on est en France, on pourrait penser que ça n'existe pas. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne connaissent pas les chiffres et l'impact des violences sexuelles notamment, mais des violences en général sur les enfants, donc il faut se réveiller.
Mmh. Ouais, clairement. Et justement, en parlant de violences... Il y en a 5 qui sont marqués sur votre site. Il y a 5 types, on va dire, de violences. Il y a les violences physiques, il y a les violences sexuelles, il y a la violence psychologique, la négligence et la violence éducative ordinaire. J'aimerais, si tu veux bien, que tu m'expliques en résumé ou avec tes mots quelles sont ces violences-là et comment est-ce qu'on les définit, par exemple.
Alors bon, les violences sexuelles, c'est pas très compliqué, hein. Tout ce qui est viol, agression sexuelle, attouchement, corruption de mineurs, etc. Les violences physiques, les coups, brûlures, tout ce qui fait mal au corps finalement. Les violences psychologiques, tout ce qui détruit l'esprit, les humiliations. Le dénigrement, le chantage affectif, tout ce qui est psychologique en fait, hein, sur l'enfant. Les négligences, c'est le fait de ne pas s'occuper correctement de son enfant, de ne pas lui donner assez à manger, de ne pas respecter ses besoins en fait, ses besoins fondamentaux, la nourriture, le sommeil, ne pas le soigner s'il est malade, voilà. Et puis les violences éducatives ordinaires sont des violences qui sont quotidienne pour éduquer les enfants, donc ça peut être les coups, et c'est surtout les violences physiques et psychologiques dans le but d'éduquer l'enfant, et qui sont presque quotidiennes, ordinaires, considérées comme normales, et qui sont interdites en France depuis la loi du 10 juillet 2019, qui est arrivée bien tard, qui a été axée sur l'anti-fessée, alors que c'est pas que la fessée, c'est toutes les violences qu'on peut exercer sur l'enfant pour l'éduquer. Et cette loi, elle est arrivée très tard. On sait aujourd'hui que dans les pays du Nord, notamment, où elle a été votée dans les années 70, ça a réduit fortement les violences sur les enfants et les comportements des adultes. Donc on est toujours en retard un peu en France.
Ouais. Les violences, la violence éducative ordinaire, elle porte bien son nom, je trouve, ordinaire, parce que c'est une violence que moi j'ai subie. Elle porte bien son nom, hein, c'est la violence éducative, c'est-à-dire que c'est dans un but éducatif. Et moi, je l'ai subie avec le fait de me forcer à manger certains aliments, ce qui pourrait être perçu comme une éducation normale de la diversification alimentaire d'un enfant, doit manger des fruits, des légumes, de la soupe, etc. Sauf que moi, j'avais toujours cette petite main invisible qui devenait visible des fois de la part de mon beau-père et qui devenait une tape, tu sais, la tape derrière la tête si tu manges pas ton assiette et tu vas la manger et me forcer et me crier dessus jusqu'à ce que je finisse par chialer et par manger en pleurs mais mon assiette, tu vois.
Alors j'aurais plutôt tendance à dire que c'est de la violence tout court, hein.
Oui, c'est de la violence tout court, mais ce que je veux dire, pourquoi je veux dire que c'est de la violence ordinaire, c'est parce que je me suis rendu compte que pour plein de gens, quand je racontais ça, ça ne les choquait pas plus que ça, quoi. Et surtout quand tu vas sur des anciennes générations c'était institutionnel, quoi, la claque, la fessée, la remarque, etc. Et donc moi j'ai eu ça, cette petite tape sur la tête qui ne faisait pas mal, qui choquait, ça claquait mais ça ne faisait pas mal. Mais par contre, l'humiliation pour moi, c'était de à chaque fois que et c'est arrivé qu'on me serve de la soupe qui était avariée, mais comme j'étais le premier à table, ils ont pas fait exprès de me servir de la soupe avariée, mais la soupe avait tourné. Et j'étais à table, j'étais le premier à me mettre à table et à manger. Et je goûte la soupe et je dis non, la soupe elle est pas bonne et moi je veux pas la manger. Et comme eux n'avaient pas encore goûté la soupe, ils étaient toujours en train de préparer le souper, etc. Mon beau-père, comme à son habitude, qui était soi-disant en mission envoyé par ma mère pour remplacer le père que je n'avais pas, est venu me forcer à manger la soupe. Et il m'a dit arrête tes bêtises, tu vas manger ta soupe. Et il m'a mis plusieurs fois des baffes. Et ce jour-là, je me rappelle avoir plongé la tête dans la soupe tellement qu'il me mettait des tapes sur la tête. Et puis après, ils se sont assis, ils ont goûté la soupe et ils se sont rendu compte qu'elle était avariée, quoi. Tu vois, et ça, c'est des trucs, j'en parle jamais sur le podcast, des détails comme ça, parce que c'est déjà, j'ai du mal à les faire ressortir.
Alors, juste, je voulais dire, en fait, en dehors du fait que depuis, bon, le mot enfant, ça veut dire qu'il ne parle pas, en dehors du fait que l'enfant a jamais été considéré, il est toujours pas... comme un être à part entière, une personne à part entière à respecter, voilà. Donc, on s'en prend, enfin les adultes et les enfants aussi, parce que les enfants sont aussi violents entre eux. Les adultes s'en prennent souvent à des enfants qui sont des êtres vulnérables et fragiles et qui ne vont rien dire, encore plus quand c'est les parents, parce qu'il y a toujours un conflit de loyauté. Mais les personnes âgées, les animaux, les enfants, voilà, on peut mettre les personnes vulnérables. Toutes ces personnes, on peut les mettre dans le même panier, si j'ose dire, pour s'en prendre à eux. Et c'est tellement facile, en fait, d'imposer son autorité, sa toute-puissance sur les enfants qui, de toute façon, ne vont rien dire et ne vont pas réagir la plupart du temps, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, tout simplement. Voilà, c'est exercer une autorité malsaine, finalement, qui est tout le contraire de ce qu'il faut faire avec un enfant pour qu'il s'épanouisse et qu'il grandisse correctement. En tout cas, au niveau psychologique, déjà. Voilà, donc, la puissance du parent, c'est l'histoire de la soupe, c'est l'histoire de beaucoup d'enfants avec des exemples et des images différentes, mais c'est vraiment imposer son pouvoir d'adulte sur l'enfant, et toutes les violences sont basées... notamment les violences sexuelles, sur du pouvoir et de la domination de l'enfant. Donc il faut, comme tu disais, tu parlais des violences éducatives ordinaires, c'est quelque chose, nous quand on fait les formations adultes, par exemple, on évoque ce sujet, beaucoup d'adultes se disent maltraitants. Déjà, ils ont l'honnêteté de reconnaître, parce que bon, le but, c'est pas de stigmatiser les parents ni les adultes, mais de leur faire comprendre que c'est un comportement qui a un impact et qu'il faut en changer. Et qu'on a été construit en fait sur ce schéma millénaire, mais ils le reconnaissent et grâce à ces formations, ils peuvent changer de comportement et comprendre pourquoi c'est négatif sur le développement du cerveau de l'enfant. Mais avant de, on oublie souvent en fait de parler des maltraitances, que ce soit quand il y a des addictions, quand il y a des troubles psychologiques ou un enfant agité, qui a des troubles du comportement. On oublie, on ne pense pas à lui poser la question de savoir s'il vit des choses qu'on n'a pas le droit de lui faire. Et ça, c'est un vrai problème, parce que souvent, beaucoup de choses sont liées à l'enfance, ça c'est clair, et aussi aux violences subies pendant l'enfance. Et il faut pas croire qu'il y a des petites violences. Par exemple, j'ai interviewé plusieurs fois Boris Cyrulnik, et il dit quand un enfant pose une question et qu'on le balaye d'un geste de la main en faisant comme ça, c'est déjà une violence. C'est déjà ignorer l'enfant, ne pas répondre à la demande de l'enfant. Donc on part de loin et il y a du boulot.
Ouais, il y a du boulot. Pourquoi c'est un tabou le sujet des violences faites aux enfants?
Parce que ça touche la famille, c'est le principal tabou, c'est-à-dire que on a tellement fait de la famille un sanctuaire fermé, intouchable, qu'on ne peut pas imaginer bien souvent que des parents puissent être maltraitants envers leurs propres enfants. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se représenter. Quand on a un enfant, c'est de l'amour, c'est son enfant, enfin voilà. Donc on n'arrive pas à imaginer qu'un parent puisse être maltraitant avec son enfant, Et puis le deuxième tabou, c'est le silence des autres, c'est-à-dire les personnes qui peuvent entendre ou voir des violences et qui ne parlent pas, qui ne disent rien, qui ferment les yeux, voilà. Et ça, on l'entend aujourd'hui dans MeToo et tout ce qu'on veut derrière, MeToo garçon, MeToo inceste, MeToo tout court. Tout le monde sait, où tout le monde entend, où tout le monde voit et personne ne parle. Et ça, ça contribue en fait dans la stratégie de l'agresseur, qui a une stratégie bien particulière, ça contribue à entretenir ce tabou depuis toujours. Et c'est ce que tout le monde dit, toutes les personnes qui parlent aujourd'hui disent, tout le monde savait d'une manière ou d'une autre. Et dans la famille, bien souvent aussi, beaucoup de mères complices, beaucoup de personnes qui voient les violences et qui ne parlent pas. Peur de briser la famille, peur des représailles, peur de des problèmes qui peuvent survenir après. Enfin voilà, c'est...
Oui, il y a aussi ce truc très, très identitaire de... Nous, en tant qu'être humain, pour notre survie, on a besoin du groupe, et donc du coup, aller à l'encontre de la famille, ça irait à l'encontre d'un besoin fondamental de l'être humain, qui est justement l'insertion et la capacité à s'insérer dans un groupe. Et donc du coup, c'est très contre-intuitif de balancer son noyau familial, quitte à, enfin, peut-être avoir des répercussions qui pourraient le faire exploser, parce que ça nous mettrait nous-mêmes en danger. Donc il y a cette contrainte, peut-être un peu ancré au fond de nous, qui nous empêche parfois de faire ça, ou de perdre carrément des bénéfices ou des avantages, en parlant très concrètement. Mais il y a des gens voilà, qui veulent pas perdre un héritage, ou qui sont prêts, eux, à accepter certaines violences sur eux, et donc ils vont pas parler de la violence qu'ils voient chez leurs frères ou chez leurs sœurs, parce que ils voudraient pas perdre le capital social que la famille peut avoir, le capital économique ou ce genre de choses.
C'est surtout, je pense, il y a deux choses. Le fait de vraiment d'avoir la peur de briser la famille, et après les conséquences qui peuvent survenir. Et puis aussi, il y a beaucoup d'enfants et d'adultes aussi, qui pensent que c'est normal. Que c'est normal encore aujourd'hui d'être violent avec un enfant. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'agit pas, parce qu'on pense que c'est normal. La plupart des enfants maltraités, pourquoi ils ne parlent pas? Tant qu'on vient pas leur dire que c'est pas normal, pour eux c'est normal. Donc il n'y a pas de réaction vis-à-vis des violences qu'ils subissent à cause de ça.
Ouais, d'ailleurs on entend ça jusqu'à l'âge adulte. Des fois, même moi, quand je parle, ou quand j'ai des personnes qui ont subi des maltraitances, on en parle comme si c'était quelque chose de banal, et des fois on peut même mettre le mot en mode mais c'était normal à l'époque, et des gens qui sont en face et qui sont conscients et qui l'ont pas vécu sont là mais non c'était... Alors, pas normal.
Il y a des études qui sont faites qui expliquent en fait les adultes qui disent j'ai reçu des coups, j'ai été battu, j'ai reçu des gifles et j'en suis pas mort, etc. On sait aujourd'hui, par exemple, que c'est très complexe, en fait. Le fait que ça vienne des parents, et ce conflit de loyauté, et cette culpabilité, en fait, le fait de dire « j'en suis pas mort », etc., ça déculpabilise le parent, en fait. Et en fait, les enfants se rendent pas compte qu'en disant ça, ils ont accepté pour ne pas aller contre le parent. Et c'est une façon aussi d'apaiser sa souffrance, de reconnaître qu'on n'en est pas mort, mais qu'on a subi des violences de la part de ses parents. Ça dédouane aussi les parents de le dire. En fait, c'est une façon de ne pas rentrer dans le conflit et d'apaiser aussi sa souffrance que de dire « j'en suis pas mort », etc. Il faut quand même savoir qu'il y a des enfants qui en meurent, et que ça commence souvent par des coups, des gifles, et que ça peut finir par un décès. Donc il faut aussi sortir de ce schéma « j'en suis pas mort », quand on sait le nombre d'enfants, les milliers, voire millions. Il faut savoir que dans le monde, il y a un enfant sur deux qui subit une maltraitance. Un enfant sur deux dans le monde, c'est énorme. Ça a des conséquences à vie, même les fessées, même si elles sont pas à répétition, ça a des conséquences. Donc il faut sortir de ce schéma « j'en suis pas mort », c'est une phrase que je supporte difficilement.
Ouais, j'imagine bien. Ça me rappelle un échange très très musclé entre Yann Moix et Patrick Sébastien sur le plateau de On n'est pas couché. Ça me rappelle une séquence vidéo. Les gens pourront aller la retrouver si vous voulez. Il y a aussi ce truc de il y a pas que les hommes en fait qui font du mal.
Non.
La femme, et ça c'est aussi un stéréotype tabou qu'on peut lever. Moi j'en suis la preuve. Toi t'en as parlé un petit peu, mais moi j'ai subi. Ce que j'ai subi, c'est de la part de ma maman, et c'est encore plus compliqué en fait. Tu disais tout à l'heure que c'était l'homme qui avait tous les droits et compagnie au niveau du foyer à une certaine époque, mais je te parlais quand on préparait l'interview la dernière fois qu'on s'est parlé que aujourd'hui la femme a quand même beaucoup 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 de pouvoir au niveau législatif, au niveau du cadre de loi, en termes de garde d'enfants, en termes de pension alimentaire, en termes de voilà de tout ce qui concerne son lien à l'enfant. Ça la met dans une position voilà, la femme c'est la nourricière, c'est la par essence, imaginez, c'est la bonne personne du couple comparé à l'homme agressif, combatif, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, et que moi j'entends de plus en plus de témoignages de personnes qui libèrent la parole sur les violences faites par une mère ou par une femme. Il y a des femmes qui violent, ça existe aussi. Et donc il faut sortir aussi de cette idée qu'il y aurait que des hommes qui sont des agresseurs.
Alors faut sortir de cette idée parce que c'est une réalité. Moi j'ai écrit un livre sur les mères toxiques, notamment Amour à mort. Et en fait, je connais aussi beaucoup de personnes qui ont subi des violences de par leur mère ou qui ont eu des mères toxiques. Aujourd'hui, on a tendance quand même à beaucoup sacraliser la mère. Mais il faut savoir quand même que bon, les mères élèvent leurs enfants, éduquent leurs enfants aussi, hein, principalement, même dans la plupart des cas. Donc il y a aussi forcément un impact des mères. Il y a aussi des mères violentes, il y a des mères incestueuses. Il y en a beaucoup moins évidemment, puisque dans les statistiques, la grande majorité sont des hommes. Mais le problème, c'est que c'est très difficile à prouver, parce que c'est souvent une relation duelle entre la mère et l'enfant. Donc c'est très difficile à prouver. Et encore là, on a encore beaucoup de mal à imaginer qu'une mère puisse faire du mal à son enfant. Or les mères tuent aussi des enfants. Enfin, je veux dire, il y a aucune raison pour que les mères ne soient pas violentes, et elles le sont aussi, même si on en parle beaucoup moins parce que c'est aussi un sujet très tabou. Mais il y a eu des études qui ont été faites en Australie, notamment sur les mères toxiques, qui seraient à peu près de l'ordre de 12%, donc c'est pas rien. Et forcément que les mères ont toute puissance sur leur enfant, c'est elles qui le nourrissent, elles ont droit de vie ou de mort, si je puis dire. Hein. C'est quand même elles qui sont les premières à élever l'enfant au plus près d'elles-mêmes. Donc il y a forcément un impact si elles sont des mères toxiques.
Ouais. Et dans mon cas, et tu disais, la mère, c'est celle qui connaît l'enfant le mieux, à mon avis, du père. Elle le connaît par cœur. Donc, quand on a une pathologie en face destructrice, que la mère et la femme est porteuse ou atteinte par une pathologie qui, dans sa structure psychique, l'oblige à détruire l'autre pour maintenir son propre équilibre. Eh bien, elle peut appuyer sur tous les boutons qu'elle veut, et pour détruire et faire très très mal, parce qu'en fait, elle connaît tout. Moi, je prends l'exemple de ma mère. Elle m'a vu. Elle connaît tous mes échecs. Elle connaissait tous mes échecs, toutes les choses sur lesquelles je pouvais avoir peut-être des complexes, ou sur lesquelles je pouvais avoir de la honte et tout ça. Elle le jaugeait, elle l'emmagasinait. Et donc, quand elle voulait se servir quand elle voulait être violente avec moi pour me rabaisser, me casser ou me violenter, elle savait exactement sur quelle partie, sur quelle note me faire mal. Tu vois, c'était d'une précision chirurgicale. Et ça, c'est vraiment l'intimité avec la maman qui lui rend pas ce pouvoir-là, d'autant plus que l'homme. L'homme va avoir une autre forme de pouvoir sur en tant qu'agresseur.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui même, dans beaucoup de discours, on a l'impression que les mères sont incapables d'être violentes avec un enfant, et on protège beaucoup les mères. Alors c'est pas tout à fait normal aussi, et on a tendance aussi à stigmatiser beaucoup les pères, alors qu'il y a beaucoup de jeunes pères qui s'investissent beaucoup auprès de leurs enfants aujourd'hui, et on a du mal à donner cette place encore au père qui est essentiel aussi, hein. C'est très complémentaire avec le comportement de la mère. Mais bon, les mères sont sont sacralisées, il faut pas toucher aux mères. Bon, je suis désolé, il y a aussi des femmes violentes, en effet, et tu en es la preuve, moi aussi, et j'en connais, je connais des dizaines de personnes qui sont victimes d'une mère violente aussi, sans compter les mères complices, complices de violences sexuelles qui ne disent rien, enfin, je veux dire, ou de violences tout court, il y en a beaucoup. Mais on n'en parle pas. Ou en tout cas, on ne veut pas en parler.
Il y avait une question que je voulais te poser, parce que c'est inscrit sur votre site. Après, on va parler de ce que vous faites à l'association, des ateliers que vous mettez en place et de à quoi ça sert et des résultats que vous obtenez. Et on parlera un peu plus du terrain. Mais avant ça, au niveau dénonciation, qu'est-ce qu'on a le droit, pas le droit de faire? Qui a le droit, qui n'a pas le droit de le faire? Et quels sont les numéros existants? Est-ce que tu peux parler un peu plus de, tu vois, de cet aspect de dénonciation, les risques ou pas, de ce qui est encouru?
Ouais. Alors, la loi est très claire. Toute personne témoin ou qui suspecte des violences sur un enfant doit le signaler. C'est la loi. C'est-à-dire que si y a un procès ou s'il y a une enquête et qu'on s'aperçoit que quelqu'un savait, n'a pas dénoncé, peut être condamné pour non-assistance à personne en danger. Donc en fait, que ce soit un particulier ou un professionnel, il a l'obligation de signaler un enfant en danger ou en risque de danger. Donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut directement signaler auprès des CRIP, qui sont les cellules de recueillement des informations préoccupantes de chaque département. Ou bien, si c'est plus grave, on peut directement écrire au procureur de la République, notamment pour ce qui est des violences sexuelles. Et puis après, on peut se renseigner, on peut appeler le 119, qui est le numéro de l'enfance en danger et parents en difficulté, donc pour avoir des conseils ou bien pour signaler aussi un enfant en danger. Voilà, il y a pas mal de méthodes. On peut aussi contacter des associations, enfin parler à un médecin. Enfin, en tout cas, c'est une obligation légale. Donc, et il faut toujours se dire une chose, et c'est ce que nous on dit toujours, que le doute doit profiter à l'enfant. C'est-à-dire, vaut mieux se tromper. Et puis voilà, il se passe rien, plutôt que de passer à côté d'un enfant maltraité et qu'on n'a pas.
Mais du coup, il n'y a pas de risque d'attaque en diffamation ou via de choses comme ça de l'autre côté?
Alors, il peut y avoir toujours un risque. Ça existe, surtout chez les médecins. Ça peut arriver que des parents portent plainte, etc. Il faut savoir que en cas de signalement, le secret professionnel est levé. Donc, il peut toujours y avoir un risque. Mais en général, ça se fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Après, s'il y a une enquête, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais il y a toujours un risque. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi les gens ne signalent pas. C'est la peur des représailles, de ce qui peut se passer après. Mais il faut aller au-delà de cette peur pour sauver un enfant, c'est important.
Entendu. Je veux bien qu'on parle de l'asso maintenant. Les maltraitances, moi, j'en parle. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi la mission de l'asso, même si on la devine, mais quels sont les outils que vous mettez en place pour avancer sur ces sujets?
Alors, on a plusieurs actions. L'action prioritaire, c'est d'aller vers les enfants. Donc, on intervient du CP depuis cette année, CP-CE1 jusqu'à la 5e, puisque évidemment, plus tôt on va parler aux enfants, plus tôt on peut détecter et plus tôt on peut les aider. Donc, ça évite le développement de troubles plus tard. Et puis, donc on a deux ateliers, un atelier de prévention des maltraitances, où là on parle des droits de l'enfant, de toutes les formes de maltraitance, du consentement, qu'est-ce que c'est que le consentement, leur apprendre à dire non aussi, à reconnaître les limites des adultes, les dangers, pourquoi les enfants ne parlent pas, à qui il faut en parler et pourquoi il faut en parler rapidement. Et puis en parallèle de ça, on a un atelier bien-être, bienveillance, là c'est plutôt des ateliers ludiques, on va dire, sur... l'empathie, qu'est-ce que c'est être bienveillant avec soi, avec les autres, pourquoi c'est important, la respiration. Alors là, on fait des petits exercices de respiration, un petit exercice de méditation, tout ce qui leur permet en fait de gérer leur stress, de prendre conscience d'eux, de respecter leur corps, celui des autres. Voilà, donc ça avec les enfants, c'est ces deux ateliers. Et puis pour les l'atelier maltraitance, on participe au repérage. Si les enfants parlent, ils sont entendus ensuite par l'établissement qui agit en fonction de ce que dit l'enfant. Et puis on forme les enseignants et toutes les personnes qui travaillent avec des enfants. Donc on a deux formations, une de 3 heures, une de 6 heures avec des cas pratiques. Donc on a là pour l'instant, on a sensibilisé près de 9000 enfants et formé près de 2000 adultes. Donc ça peut être dans les écoles et les collèges, et puis toutes les personnes du périscolaire, crèches, centres de loisirs, personnels communaux. Et puis on a ouvert cette année aussi des conférences envers les parents, puisqu'on a la chance d'avoir un grand nombre d'intervenants. On a pour l'instant 60 de conférences qu'on peut faire en ligne ou en présentiel. Donc en fait, notre but c'est vraiment la prévention. On est axé uniquement sur la prévention. En amont, justement, dans le préventif, pour éviter le curatif. Faut savoir quand même que le budget de l'aide sociale à l'enfance, c'est près de 9 milliards par an. Donc c'est énorme, mais pas beaucoup dans la prévention. Donc nous, on vient avant pour éviter justement les problèmes d'après et la prise en charge. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on manque de psychologues, on manque de tout, et que l'aide sociale à l'enfance est en grande souffrance. Donc voilà, et on se rend compte en fait, puisqu'on fait participer les enfants qui sont d'ailleurs très acteurs des séances et qui parlent beaucoup, qui nous remercient pour ce qu'on leur a apporté, parce que ce qui ressort le plus, c'est maintenant on saura quoi faire, on saura pourquoi il faut parler et à qui en parler. Donc c'est les trois principes en fait majeurs essentiels à retenir. Et beaucoup d'enfants, puisqu'on fait nos propres statistiques à l'association, que ce soit envers les chefs d'établissement que les enfants, on sait à peu près leurs connaissances, c'est-à-dire que plus de 70% des enfants connaissent pas la Convention internationale des droits de l'enfant, plus de 80% connaissent pas le 119, et on sait aussi combien d'enfants subissent des violences, quelles formes de violences. Donc nous, c'est un rapport qu'on peut envoyer tous les ans aux institutions avec lesquelles on travaille pour avoir une connaissance de l'état des lieux, en tout cas des enfants qu'on a rencontrés. Et chaque année, là, ça va faire. On a fait deux rapports. On a à peu près 25% des enfants qu'on a rencontrés qui ont subi au moins une forme de maltraitance. Voilà, donc on vient prévenir dans un cadre protecteur et bienveillant, ce qui leur permet de parler et de détecter. C'est ce que conseille aussi la Civise. C'est pas le tout de dire il y a 3 enfants par classe qui subissent des violences sexuelles. Il faut savoir quels sont ces enfants pour les aider. C'est primordial. Donc ça nécessite beaucoup de pédagogie parce qu'on n'est pas encore habitué à ce genre d'intervention. Il y a d'autres associations qui le font aussi, mais on n'est pas habitué à recueillir la parole de l'enfant. Donc c'est pour ça que la formation est importante. On la délivre avant l'intervention avec les enfants pour apprendre aux enseignants aussi comment parler de ce sujet avec les enfants et quoi faire après. Donc ça les rassure beaucoup, ça leur donne beaucoup d'outils pour pouvoir faire face à ce fléau, sachant quand même que l'école signale en général à 40%, donc c'est énorme. Sauf que les enseignants sont pas outillés aujourd'hui pour parler de ce sujet et savoir quoi faire si un enfant révèle des maltraitances. Donc ça me paraît essentiel de toucher tous ces acteurs qui sont 8 heures par jour avec les enfants, qui les connaissent bien et qui nous aident beaucoup d'ailleurs, hein, ils sont très impliqués et très reconnaissants aussi d'avoir cette formation. On a d'excellents retours en fait parce que les violences augmentent, ils le voient bien et il faut savoir les gérer ces enfants et les aider quoi.
C'est quoi les réactions et l'action politique qui suit quand vous transmettez ces chiffres-là et vous n'êtes pas les seuls à faire ce travail-là sur le terrain, il y a d'autres assos aussi. C'est quoi le rebond? Comment est-ce que ça se passe? Quelle sensation, quel sentiment est-ce que vous avez que du point de vue de la lecture ou de l'accueil de ces chiffres et de ces constats, quelle est la réponse politique? Comment vous la voyez? Est-ce qu'elle existe ou pas?
Alors directement, nous on est quand même soutenu par des institutions et financé puisqu'on fonctionne qu'avec des subventions pour l'instant. Il n'empêche que les politiques, certains sont très investis sur ce sujet. Mais globalement, il n'y a pas une volonté, à mon sens, efficace et forte qui permette d'enrayer. Alors, ce qui permet de faire avancer les lois et les choses en général, c'est souvent les affaires qui sont médiatisées, comme les livres qui sortent, le consentement ou la famille agrandie qui sortent et qui sont très médiatisées, qui permettent de rebondir. Et aussi, ce qui est important, il y a deux choses. Il y a les politiques et il y a la société. Quand la société a décidé de s'emparer d'un sujet, des choses bougent aussi. Tant que la société ne fait rien, rien ne bouge. Donc ça, la société, c'est chacun d'entre nous. Donc chacun est capable de faire actionner des leviers pour que ça change. Aujourd'hui, je pense qu'on est, la société est davantage prête, mais grâce aux affaires qui sont sorties médiatiques, et grâce aussi aux associations qui en parlent, qui font un travail remarquable aussi, aux affaires qui sortent dans la presse, il y a une prise de conscience, à force d'en parler, de l'impact des violences sur les enfants et à l'âge adulte. Mais cette volonté politique, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez constante, c'est toujours trop long, alors qu'il y a une urgence, il y a une vraie urgence. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont placés, qui se prostituent, qui se droguent, qui se suicident, qui sont placés dans des hôtels. Là, c'est interdit depuis février, mais il y en a encore parce qu'il n'y a pas de solution d'hébergement pour les enfants placés. Enfin, c'est catastrophique. Donc, il faut des moyens, c'est clair, mais l'enfance, c'est tout. C'est la vie, c'est la société future. Voilà, donc il faut des moyens, c'est clair. Les éducateurs sont épuisés. Nous, on a beaucoup de personnes à l'ASSO qui sont éducateurs spécialisés. Il y a une vraie crise parce que on considère toujours que l'enfant, voilà, il vote pas, on l'entend pas, il manifeste pas. Mais il faut voir loin. L'enfance, c'est un programme à long terme. C'est comme l'environnement. On voit pas tout de suite, mais c'est à long terme. Donc, il faut investir pour le long terme, pour la société de demain, quoi.
Est-ce que moi, je suis pas quelqu'un de nature complotiste. Du tout, mais parfois je me pose des questions quand je vois la manière dont les sujets sont traités, et je me demande si du côté politique c'est parfois juste de la compétence, ou si des fois il pourrait y avoir un intérêt à ne pas agir sur certains sujets. Ici, on parle de maltraitance, mais je parle de la prévention aussi par rapport aux stupéfiants. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas plus dans de la communication et de la prévention en santé mentale? Pourquoi est-ce que toutes les causes racines, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire les maltraitances, la prévention des addictions, tous les sujets que si on les prend à la racine, on empêche et on évite d'engorger le système qui galère déjà comme il peut, manque de psychiatres, manque de psychologues, manque de formation sur la addictologie, etc. Pourquoi est-ce que tous ces sujets qui concernent le bien-être et le bon sens de l'être humain sont aussi peu mis en avant? Pourquoi est-ce qu'on investit aussi peu dedans? Et je peux pas m'empêcher de me demander, mais en me posant la question, qu'est-ce qui se passerait si on investissait massivement dans ces sujets-là? Et quand tu regardes, t'en parlais tout à l'heure, les pays du Nord sont quand même vachement plus apaisés que chez nous. Ils ont des résultats scolaires qui sont incroyables. Les scores d'empathie sont quasiment les plus hauts de la planète. La société roule. Ça ne veut pas dire que tout est parfait chez eux. Mais quand on voit qu'on applique ce genre de politique de santé publique, de prévention, etc., sur des sujets aussi importants, on a des résultats. Et moi, je me dis, ici, si on n'avance pas sur ces choses-là et qu'on n'investit pas, on reste dans le chaos dans lequel on est, et on sait, ça c'est pas une invention, que une population stressée, une population en conflit interne ou externe, qui se demande ce qu'elle va bouffer à la fin du mois, ou comment elle va remplir son frigo le mois prochain, est une cible plus facilement malléable pour des élections et ce genre de choses. Et donc, c'est là que je précise que je ne suis pas quelqu'un de complotiste, mais quand je me pose simplement les questions et que je m'assieds sur un fauteuil et que je regarde un peu l'état et l'ordre du monde dans lequel on vit, avec mes connaissances évidemment, je me dis, est-ce que parce qu'on a les chiffres quand même, on a les chiffres, on a la preuve, on a les preuves que les choses fonctionnent, que si on extrapolait l'investissement que par exemple une asso fait comme toi, ben on sait combien ça coûte de faire 9000 enfants en prévention, 2000 adultes ou 2000 professeurs. On sait combien ça coûte. On fait les répercussions les projections de ce qu'on gagne sur la santé, les budgets, etc. sur 10, 15, 20, 30 ans et on peut investir si on réfléchit bien. C'est du bon sens. Moi, je suis pas dans les milieux politiques, mais moi, tu viens près de moi, tu me dis, écoute, on a des preuves qu'on arrive à faire des choses incroyables avec des enfants, que ça résout des problèmes, que ça les éduque, que ça va faire dévier leur trajectoire dans la vie, et qu'ils ont plus de chances de devenir des gens, des citoyens intégrés, sains d'esprit, etc. Je vois pas pourquoi, malgré des preuves, et là, je parle des maltraitances, mais encore une fois, ça peut être sur la prévention des addictions et sur tout un tas de sujets comme ça. Pourquoi est-ce que face à autant de preuves de gens engagés de terrain, on n'a pas des actions politiques en conséquence? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que, enfin, voilà, c'est, qu'est-ce qui fait que?
Alors, je pense à un schéma très long. Il y a plusieurs facteurs, mais la volonté politique, sachant qu'on part de loin sur un schéma d'éducation qui était prioritairement violent, où l'enfant n'avait pas de place, donc il faut déjà donner une place à l'enfant et une vraie sa vraie place en tant que entité indépendante, j'allais dire, en tout cas avec sa propre personnalité, et le respecter en tant que tel, comme un être à part entière et pas une projection de soi, une appartenance de soi, etc., ou un rêve pour le parent qui veut que l'enfant réalise que lui-même a paralysé. Bref, c'est tout ça, c'est très complexe, mais je pense qu'il faut une vraie volonté. Aujourd'hui, on a été plus dans une espèce de réparation qui marche pas toujours bien non plus, parce qu'on manque aussi de professionnels, et pas dans la prévention en France, quand on regarde bien, et pourtant ça marche, quand on a commencé à faire la prévention routière, tout un tas de préventions sur la santé, ça marche, mais il faut des moyens, il faut que ce soit répété, il faut que ce soit constant. Et les violences, encore une fois, on touche à la famille, qui est un spectre particulier, et donc qui fait peur aussi, puisqu'on s'introduit dans la famille, chose qu'on ne doit pas faire en temps normal, dans la sphère privée. Voilà, donc ça touche tout un spectre, en fait, qui est défaillant, puisque la plupart des maltraitances ont lieu dans la famille, donc c'est un schéma qui est défaillant pour certains enfants et certaines familles, donc il y a tout un tas de facteurs. Aujourd'hui, on se rend compte que, et on le sait depuis toujours, que la prévention est très efficace. L'OMS dit notamment que la prévention réduit fortement les signalements et aussi les troubles développés chez les enfants maltraités. Donc il faut la volonté politique, c'est tout, des moyens, et se dire on va investir sur le long terme, on commence maintenant et s'y tenir, et arrêter d'avoir des rapports, des commissions à répétition. On sait, toutes les associations savent, connaissent les problèmes et ce qu'il faut faire. Donc il faut après la volonté de le faire.
Qu'est-ce qui fait que il manque de volonté?
Bah écoute, je sais pas. Comme on l'a déjà dit, peut-être parce que l'enfant,
c'est pas prioritaire. Tu penses que c'est parce que c'est lié aussi à l'individu politique qui lui-même, ce sujet-là est un sujet, sur lequel il n'a peut-être pas la bonne conscience pour pouvoir faire avancer le débat d'un point de vue opérationnel. Que c'est sociétal, en fait, et que le politique fait partie de la société, et que donc ça coince à ce niveau-là. C'est ça que tu veux dire?
Mais ce n'est pas vendeur, l'enfant. Donc ce n'est pas électoral. Ça peut faire partie des raisons, j'en sais rien, je suis pas dans la tête des politiques, et à vrai dire, on se pose la question, nous, en tant qu'association et professionnel de l'enfance, mais on sent bien que même quand il y a un élan, alors après, voilà, ça touche peut-être aussi des personnes concernées, je sais pas, mais on sent que quand il y a un élan, comme avec la Civise, qui a été dirigée par le juge Édouard Durand, notamment, co-présidé, et qui a abandonné au bout de 3 ans, après avoir recueilli 30 000 témoignages de victimes de violences sexuelles, après avoir fait un rapport avec 82 préconisations, on détruit la Civise au bout de 3 ans, alors que c'était formidable à tout point de vue. Pourquoi est-ce que d'un seul coup on décide de détruire ce qui marche? Voilà, donc Est-ce que ça dérange quelqu'un qui, j'en sais rien, mais c'est pas normal qu'on arrête des choses qui marchent, et c'est souvent le cas en France dans plein de domaines. Hein. Donc il faut aussi peut-être revoir le schéma dans les écoles aussi. Enfin, il y a plein de choses à revoir. Ne plus parler de sanctions, de punitions à répétition. Enfin là, nous quand on va dans les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent comme ça aussi, qui se rendent compte notamment du bienfait, de la bienveillance à l'école, du climat de classe. Il y a des gens de l'éducation nationale qui travaillent depuis 30 ans sur le climat de classe. Quand on arrive en classe, nous, on dit aux enfants que grâce à eux, on va changer des choses qui sont importantes. On les met en avant, et moi j'y crois fortement, et d'ailleurs c'est vrai. Et tout de suite, ils changent de posture parce qu'ils se sentent investis tout de suite. Donc il faut valoriser les enfants, il faut les guider, les valoriser, les mettre en avant, leur donner des projets. Aux jeunes, il faut des projets. On avance avec quand on a des projets. Et il faut savoir que on parle. Bon, toi, tu es spécialiste des addictions. Il y a beaucoup d'ados qui ont été maltraités, qui sont dans le rejet de leur famille et qui finissent dans une autre famille qui est celle de la délinquance, de la drogue, du trafic de drogue, de la prostitution. Tout ça, c'est toujours lié, plus ou moins fortement, mais quand même globalement, à l'éducation que les enfants ont reçue et au climat affectif qu'il a reçu. Donc, il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, on le sait. Donc, il faut agir pour aider ces enfants. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une priorité essentielle, et c'est la seule priorité, c'est les enfants.
Ouais, on est d'accord. Dans tes interventions, dans vos interventions, parce que c'est pas toi qui les fais toutes, j'imagine.
Et puis juste, ouais, ben j'en ai fait pendant un an et demi. Ce que je voulais finir de dire, c'est que quand on doit intervenir dans une famille, il faut savoir que bon, les gens ont du mal aussi à se remettre en question. Si on va dans une famille leur dire vous maltraitez votre enfant, bon, après il y a toujours une histoire derrière. Chacun aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure. On n'est pas violent par hasard, mais c'est aussi permettre aux gens de se remettre en question. Et il y a des gens qui ne veulent pas se remettre en question, donc il y a ça aussi, il y a ce problème-là aussi.
Ouais, effectivement. Ouais, c'est à ce moment-là que face à ce genre de personnes, moi je suis parti parce que j'ai compris qu'il y avait aucune réparation, discussion, cheminement possible. J'étais face à un mur et donc pour ma survie, j'ai dû partir. Face à la non remise en question pathologique, la fuite est malheureusement bah souvent la seule issue. Sinon on continue d'y perdre des plumes et c'est à nos risques et périls.
Il faut savoir par exemple que dans à l'aide sociale à l'enfance, dans les enfants placés aujourd'hui, il faudrait que je vérifie le chiffre, mais beaucoup qui sortent de l'aide sociale à l'enfance sont SDF, et 50% des mineurs qui se prostituent sortent de l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a quand même un problème, quoi. Si on n'est pas capable de regarder ce problème en face, c'est que franchement, on veut pas le regarder, parce que tous les chiffres sont là, les cas sont là. Donc c'est déjà des enfants qui sont placés parce qu'ils sont dans une famille dysfonctionnelle ou qui subissent des maltraitances, et on s'occupe pas correctement d'eux. Je dis pas que c'est le cas partout, mais on a quand même beaucoup d'exemples. Là, il y a des départements où il y a des enfants à la rue, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'accueil pour eux. On ne sait pas quoi en faire. Moi, je connais plein de personnes qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance qui nous disent on ne sait pas quoi faire de ces enfants. Il n'y a pas de structure. Il y a de moins en moins de familles d'accueil. Enfin, voilà. Donc, tout ça, on le sait. Donc, il faut une vraie volonté prioritaire pour l'enfance.
Pour en revenir aux ateliers que vous faites dans les écoles, etc., est-ce que tu sais un peu me dire les résultats que ça apporte quand tu es, par exemple, face aux enfants et face aux adultes? Tu m'avais dit face aux enfants, mais à la libération de la parole. J'en ai un petit peu parlé déjà une fois ou deux en expliquant le contexte, de les écouter, de leur dire, de les intégrer directement dans le projet, etc. Et la prise de conscience auprès des adultes. Est-ce que tu sais un peu plus donner de détails de justement de l'impact et des résultats que les interventions de sensibilisation ont lorsque vous êtes sur le terrain? Qu'est-ce que vous constatez factuellement?
Alors déjà, on constate des enfants très à l'écoute. Pourquoi? Parce que la grande majorité des enfants pas tous évidemment, mais beaucoup d'enfants sont concernés par au moins une forme de maltraitance, notamment dans les violences éducatives ordinaires. Quand on aborde les violences éducatives ordinaires avec eux et qu'on leur dit maintenant il y a une loi, c'est interdit, c'est la révolution, parce que évidemment ils ne le savent pas, les parents non plus, mais pour eux, quoi, on n'a plus le droit de nous frapper ni de nous humilier. Et là, les enfants parlent, moi je comprends pas, mon père il me frappe, ma mère il me frappe parce que j'aurais pas fermé de voir, et je lui dis, et ça continue. Voilà, donc déjà ça c'est la révolution. Donc déjà c'est important de savoir pour les enfants quels sont leurs droits, quels sont les interdits. Parce que déjà ils pourront le dire, voilà, ils pourront dire aussi, il y a après des parents qui nous disent en rigolant, bah dès que je dis un mot plus haut que l'autre, mon fils me dit, si tu continues j'appelle le 119, et bah tant mieux. Voilà, donc déjà savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand ça se passe et en parler. Donc ça, c'est la première chose. Donc ils sont super contents parce que y en a qui savent pas que c'est interdit, que pour eux, ils pensent que c'est normal. Donc il y a ça. Et puis, comme c'est très ludique, ils participent beaucoup. En dehors de ça, il y a les enfants qui prennent ça très au sérieux. D'ailleurs, il faut arrêter de croire que les enfants comprennent rien. Ils sont pas intelligents parce qu'ils comprennent vraiment tout et ils sont très intelligents et ils prennent ça très au sérieux. Et ils se rendent compte, si c'est leur cas, bah, qu'eux aussi subissent et que ça leur donne un espace de parole aussi pour pouvoir parler, et c'est ce qui se passe aussi. Et puis pour la séance bien-être, ça leur donne beaucoup confiance en eux. Il y en a qui nous disent « Merci, ça me redonne confiance en moi ». Il faut arrêter d'être dans un schéma négatif avec les enfants. Il faut être dans le positif, ça n'empêche pas de donner des limites, des règles. On a tous des règles et des limites à respecter. Il faut un cadre sécurisant, affectif. On sait aujourd'hui que le lien de sécurité, c'est le lien le plus important pour le développement de l'enfant. Voilà, donc comme ils sont globalement tous plus ou moins concernés, puis on parle aussi du harcèlement, du cyberharcèlement, bah forcément ils sont impliqués et ils prennent ça très au sérieux et ils nous remercient. Et quant aux adultes, il y a une vraie prise de conscience, il y a une remise en question. Ils nous le disent, ça m'a changé notre comportement vis-à-vis des élèves, vis-à-vis de leurs enfants, puisqu'il y a double bénéfice, ils sont profs et parents la plupart du temps. Donc d'avoir connaissance du sujet et de changer le regard sur les élèves, d'avoir une autre approche sur les élèves et sur leurs enfants. Donc il y a un vrai bénéfice et pour les professionnels de l'enfance aussi, on a formé il y a pas longtemps des ASEM. Ça a été une super formation. Elles avaient énormément de questions parce qu'elles sont en direct auprès des enfants et elles sont jamais formées. Alors ce sont des personnels clés. Et elles ont appris énormément de choses et elles étaient ravies, quoi. Mais les enfants, je veux juste finir avec ça là-dessus. Il faut arrêter de croire aussi que les enfants, on peut pas leur parler des maltraitances parce que ça aussi, c'est un tabou. Il y a deux sujets complexes en France, c'est la sexualité et les violences. Or, quand nous, on fait notre questionnaire où l'on demande s'ils connaissent déjà des violences, mais voilà, donc ils écrivent, hein, viol, kidnapping, meurtre, étranglement, enfin sans qu'on leur parle de rien déjà. Donc ils connaissent tout ça. L'âge moyen des enfants en France qui regardent des films porno, c'est 10 ans. Donc faut arrêter de penser qu'on peut pas aller les faire de la prévention sur les maltraitances. Hein. Y a ça aussi.
Ouais, c'est une sacrée question aussi, ça, le porno, l'accessibilité du porno chez les enfants, qui est un sujet à part entière. Qu'est-ce qui existe en termes de ressources numéros? Donc il y a vous l'asso, mais vous êtes sur le terrain et vous avez votre réseau, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a comme numéros et ressources? L'annuaire de base de pour les maltraitants, si quelqu'un voit, si quelqu'un est concerné, on appelle qui, on se dirige vers quoi, comment en France, c'est quoi les...
Ben je te dis, le numéro le 119. Le numéro officiel de l'enfance en danger pour toutes les formes de maltraitance. Après, pour ce qui est harcèlement, cyberharcèlement, c'est le 3018. Le 17, police, gendarmerie, évidemment. Et puis après, déjà d'en parler à quelqu'un autour de soi, c'est bien. Et puis, on dit aux enfants aussi, si vous en parlez et que personne, que rien ne change, il faut en parler à quelqu'un d'autre. Voilà, il faut pas lâcher jusqu'à ce que ça change. Ce qui est pas évident pour les enfants, hein, parce que ils sont pas grands. Ils sont face à des adultes, mais on sent quand même que pendant l'intervention, ça les renforce aussi, ça leur donne en fait une posture qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur donne, de pouvoir aussi gérer les choses par eux-mêmes, c'est important. Et d'ailleurs, il y a quand même de plus en plus d'enfants qui appellent le 119, hein, surtout le mercredi. Voilà, ça augmente aussi tous les ans, hein, les appels au 119. Faut savoir que ils font quand même 58 IP par jour au 119, information préoccupante. C'est énorme. Ils traitent plus de 35 000 appels. Donc, il faut donner aussi les outils aux enfants. Ils sont capables d'agir. Il y en a qui sauvent des vies. Voilà, hein, on l'a entendu il y a encore pas longtemps, un petit garçon qui a sauvé sa mère. Enfin, je veux dire, voilà, les enfants sont capables d'agir. Donc, faut arrêter de penser qu'ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. J'exagère un peu, mais bon, c'est voulu.
Est-ce que dans ces sujets-là, autour de l'asso et du cœur du sujet qu'on aborde aujourd'hui, t'as encore quelque chose que tu voulais ajouter ou sur un sujet dont tu voulais parler?
Bah écoute, on a besoin de soutien, ça toujours, on a besoin de financement, ça c'est important, puisque moi j'ai décidé, pour des raisons de professionnalisme et de qualité, de payer les intervenants, parce que c'est un travail conséquent. Donc on a toujours besoin de partenariat, on a des marraines, on cherche toujours aussi des personnalités qui veulent nous rejoindre, et des financements pour pouvoir intervenir là où, parce que quand on a une subvention, on est obligé de la dépenser dans le département ou la région qui nous la donne. Donc, pouvoir avoir des financements pour intervenir là où on a des demandes et où on n'a pas encore de subvention. Voilà, on peut être membre de l'asso, adhérer, participer, faire un don, enfin voilà. En tout cas, tout va aux interventions globalement. On donne aussi aux enfants une carte qu'on a faite à l'association à chaque fois qu'on va dans les écoles, qui s'appelle Ma carte SOS Contact, avec trois contacts principaux, et puis un lien qui relie à la page jeune de notre site, la page 8-12, qui explique pas mal de choses aussi sur cette thématique.
Ok, et donc votre site internet c'est
www.les-6-maltraitance-6, moi j'en parle.fr. C'est un peu long, mais... Mais il y avait une vraie volonté dans le nom de l'asso que j'ai donné, c'était que quand on dise les maltraitances, moi j'en parle, et ben on en parle. C'était important.
Du coup, il y avait quelques questions pour terminer cet échange que j'avais envie des questions, des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi, des trucs dont on avait parlé dans la préparation de notre échange. Parce que là, on a beaucoup parlé des enfants et des solutions pour les enfants, etc. Et on a parlé aussi des conséquences à l'âge adulte et des situations dans lesquelles on peut se retrouver, comme moi, qui ai vécu 25 années sous emprise de ma maman, en ayant été au contact de personnel psycho-médico-social et qui, n'ont jamais alerté quoi que ce soit, alors que... mon état ne pouvait que laisser présager des violences. Je veux dire, c'était une évidence à certaines périodes de ma vie, et il y a même probablement des fois où les violences ont été faites devant ces personnes-là. Donc moi, je suis fort touché par les thématiques qu'on aborde, parce que je me dis putain, y a personne qui m'a entendu, quoi. Personne qui m'a entendu, personne qui m'a vu, personne qui m'a cru, parce que quand je parlais, j'étais tout le temps. Enfin, j'étais pas écouté, je me sentais pas écouté, il se passait rien, et je fouillais la maison, j'ai déjà allé à la police, j'ai déjà fait des fugues, j'ai déjà été chez des personnes ressources, etc. À chaque fois, on me ramenait au bercail en mode « Ah, le petit, il a encore fait une crise, là, ça va passer », et tu vois, et donc du coup, à l'âge adulte, on se pose des questions, à l'âge adulte, on a le regard d'adulte maintenant, sur toutes ces questions-là, on a avancé, on a pris des décisions, on a fait des choix. Et il y a tout ce qui est la question à la fois de la confrontation à son agresseur, il y a la question du pardon. Et dans cette question du pardon, il y a la compréhension, pour que le pardon soit nécessaire, comprendre que la phrase que tu m'as dite la dernière fois, c'est son chemin et c'est pas le mien, c'est-à-dire c'est son histoire à elle et c'est pas la mienne. Donc je veux bien qu'on parle un peu de ces trois sujets par l'angle que toi t'as envie de l'aborder, mais donc la confrontation, l'abandon et le fait que finalement il faille comprendre et assimiler, ça fait partie d'un processus aussi de deuil, etc., mais assimiler que ça nous appartient pas, quoi.
Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure sur le silence, c'est qu'un enfant, il ne parlera pas des violences qu'il subit. Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est le conflit de loyauté. Un enfant aime ses parents, quoi qu'il arrive. Même les enfants maltraités aiment leurs parents. Et parfois, ils l'aiment parce que c'est le seul lien qu'ils ont avec eux, c'est la maltraitance. Et on sait très bien, dans plein d'affaires, comme l'affaire de la petite Marina qui a été battue à mort, qui n'a jamais parlé devant les gendarmes, un enfant ne va pas parler spontanément de ce qu'il vit. Et deuxièmement, un enfant ne va pas dire qu'il subit un viol. Il va dire je veux plus aller en vacances avec tonton, je veux plus aller chez un tel. Et il faut se poser la question pourquoi. Donc voilà. Donc un enfant à la base, il va pas parler tout seul. Ça c'est clair. Et puis après, les gens, comme ils sont soit pas formés pour les professionnels ou très peu, soit qu'ils ne veulent pas pénétrer la sphère familiale, ils vont pas aller plus loin. Ce qui est complexe, hein, parce qu'il faut décrypter le langage de l'enfant déjà, qui ne va pas parler comme un adulte. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapies qui marchent. Il faut savoir que le cerveau de l'enfant, dès sa naissance, même avant la naissance, déjà dans le ventre de la mère, si la mère subit des violences, si elle est dépressive, si elle n'est pas bien encadrée, ça a un impact sur le cerveau de l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Ça va jouer sur notamment les émotions, le système des émotions. Bref, je sais plus ce que je voulais dire.
Mais oui, pour moi, pour rebondir sur le développement, tout ce qui est cortisol, etc., va avoir un...
Ah oui, donc je dis, ouais, c'est ça. Il y a, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a le stress aussi. On sait aujourd'hui que le stress est le premier facteur déclencheur de maladie à l'âge adulte. Et qu'on est dans un système aussi où on parlait tout à l'heure, bon, de compétition beaucoup. On met une pression aux enfants folle. Il y a ça aussi. Tu parlais des pays du Nord. Il y a beaucoup moins de pression. L'école est pas faite pareil. Enfin voilà. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques pour aider. Si on veut pas faire une analyse ou une thérapie longue, il y a beaucoup de thérapies brèves qui marchent très bien, qui travaillent sur le traumatisme en lui-même. Le MDR, ça marche très bien aussi, et toutes les thérapies comportementalistes et les thérapies brèves, ça marche assez bien. Donc ça, c'est important de se faire aider. Je pense que il y a deux facteurs qui sont importants, c'est la thérapie et selon dans l'état dans lequel on est, les médicaments aussi. Je veux dire, moi, quand j'ai fait ma dépression, si j'avais pas eu de médicaments qui rétablissent mon système biologique, chimique, on va dire, pour pouvoir justement faire ce travail, j'aurais pas pu le faire parce que j'étais pas en état. J'ai pas pu m'occuper de ma fille pendant très longtemps. Je suis retourné chez ma mère. J'étais incapable de bouger en dehors du canapé. Donc les médicaments ont aidé quand même à remettre le système biologique en route, on va dire, pour pouvoir entamer cette thérapie. Donc je pense que les deux sont souvent indissociables. Maintenant, on fait des médicaments très performants qui ne donnent pas de dépendance ou être dans un état pas possible. Donc ça, c'est important de faire cette démarche pour se faire aider parce que ça marche quand même. Et c'est vrai que rien que le fait, et ça, toutes les victimes le disent, rien que déjà le fait de parler, de raconter son histoire, ça aide énormément à la reconstruction. C'est la première clé, en fait, de parler. Et il faut savoir écouter aussi les autres. Après, c'est très difficile de pardonner parce qu'on a souvent l'idée que l'image du pardon, c'est pardonner à l'autre. C'est tout un chemin et toute une histoire. Moi, je pense que c'est important de confronter son agresseur. Ça, c'est pour moi, c'est mon avis personnel, hein. C'est mon expérience, celle que j'ai retenue d'autres aussi, mais de rendre à l'autre en fait ce qui nous appartient pas. C'est important de le faire à un moment donné de sa vie quand on est prêt, de dire à celui qui nous a fait du mal, qu'il nous en a fait, quelles ont été les conséquences. Alors souvent on me dit ah mais de toute façon il n'entend pas. C'est pas très important ça. Ce qui est important c'est que nous on le dise. Ça fait changer des choses inconsciemment, même pour tout le monde, je pense. Donc c'est important un jour de rendre à l'autre ce qui ne nous appartient pas. C'est en ça que tu disais tout à l'heure, c'est pas notre chemin, c'est le sien. On a tous une histoire, on dépend tous d'une histoire. On sait aujourd'hui notamment que les agresseurs, bien souvent, ont été des enfants maltraités, placés. Il y a toujours une histoire. Donc il faut connaître aussi cette histoire, c'est important pour pouvoir se reconstruire. Si on connaît pas l'histoire de l'agresseur, c'est compliqué. Ça veut pas dire qu'on accepte tout, bien au contraire. Mais pour moi, pardonner, c'est d'abord pardonner notre enfant intérieur. C'est un chemin qu'on doit faire avec soi-même, pour soi, et pas pour l'autre. Parce que bien souvent, les agresseurs ne reconnaissent pas les violences. Hein. C'est pour ça qu'il y a plus de 70% de classements sans suite. Il n'y a pas de preuves et ils ne reconnaissent pas. Et il n'y a pas de preuves, donc on peut pas savoir. Mais le pardon, je pense que c'est essentiel pour soi, pour s'apaiser, se reconstruire. Voilà, c'est pas oublier, mais c'est comprendre l'histoire de chacun pour pouvoir avancer sur sa propre avec sa propre histoire et sur son propre chemin. Et ça peut demander des années ou toute une vie.
Il y avait aussi cette notion. Cette notion de colère, et je t'expliquais que moi, le pardon, j'ai l'impression, en tout cas, il y a quelque chose qui a, il y a eu un déclic chez moi, c'est à partir du jour où j'ai arrêté de penser matin, midi et soir à ce que j'avais subi, quoi, et à tout le temps être dans une sorte de victimisation de putain, j'arrive à rien, putain, je me drogue, putain, j'arrive pas à aboutir, enfin, putain, j'ai une vie de merde parce que j'ai subi ça, parce que c'est de la faute de ma mère. Et j'étais là, et putain, sale conne, sale pute, sale tout ce que tu veux, j'insultais tous les noms dans ma tête parce que j'étais conscient que mon état actuel et mon incapacité à évoluer correctement dans la société était directement lié aux violences que j'avais subies et à toutes les choses qu'elle avait pu faire sur moi ou me dire. Et il y a vraiment eu enfin, je suis passé du noir au blanc le jour où j'ai pris la responsabilité de mon avenir en me disant ok, tout ça c'est arrivé, c'est la réalité. Il n'y a pas de débat, de nuances, de peut-être que oui, de peut-être que non, de contexte. Non, c'est des choses sont arrivées. C'est la réalité, peut-être ma réalité, mais en tout cas, factuellement, les choses se sont passées. Donc ça, on l'inscrit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai noté toutes ces choses-là. Donc je les ai écrites, je les ai ancrées dans le dur, dans la réalité. Et puis je me suis posé sur mes feuilles et sur toute cette histoire-là, et je me suis dit ok. J'ai aucun pouvoir là-dessus. En tout cas, j'ai pas le pouvoir de revenir en arrière, de remonter le temps et de faire en sorte que ça arrive pas. Donc ça, il va falloir que je l'accepte et que, par belle ou par laide, je le traverse. Par contre, ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, et c'est vraiment la période entre la séparation avec ma maman et l'arrêt de la cocaïne, période 2018-2019, où là, je me suis dit, t'as la responsabilité de te prendre en main maintenant et de prendre en charge ton avenir, quoi. C'est de ta responsabilité d'avancer, d'aller chercher les ressources dont tu as besoin aujourd'hui parce que tu en as la capacité. Et donc, j'ai été d'abord, étape par étape, faire ce que j'étais capable de faire. Et les premières choses étaient petites. Ça a été, quand j'ai arrêté la cocaïne, reprendre, faire du vélo, lire des bouquins, me reposer, dormir, faire de la respiration. C'était aller chercher, me raccrocher à des choses que j'étais capable de faire pour devenir acteur de ma vie et non plus la marionnette de quelqu'un. Et ça a été déterminant. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'entamais un travail, et je sais pas, le pardon doit se trouver autour de ça, mais c'est la libération, le travail de libération, en fait, de toute cette charge qui pèse, parce que c'est pas tout d'avoir, d'ailleurs, le traumatisme n'est pas le coup, n'est pas l'acte en lui-même, ce n'est pas la gifle, ce n'est pas le viol, la pénétration, c'est l'incapacité psychologique à traiter et à se remettre de cet événement qui constitue le choc. Donc on peut très bien imaginer cette bibliothèque géante de tout un tas de disquettes d'informations qui constituent des répercussions de choc et d'événements ou de paroles dont on a besoin de se défaire, dont il faut libérer de la place dans le disque dur, retraiter les infos, se repasser la cassette une fois dans la tête pour pouvoir la sortir. Et c'est à partir de ce moment-là, moi, que les choses ont vraiment changé et que j'ai commencé à reprendre du poil de la bête et à redevenir acteur de ma vie. C'est quand j'ai commencé, ouais, c'est ça, à me dire, voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Mais maintenant, t'es acteur et c'est toi qui as le pouvoir de ta vie. Et voilà, 5 ans plus tard, on voit où j'en suis et les pas que j'ai fait, quoi, tu vois.
Mais c'est très bien que tu dises ça parce que je pense que peut-être que à ce moment-là, t'es sorti aussi de cette emprise. Voilà, et c'est ça qui est complexe, c'est de sortir de, parce que quand on est victime de violences sexuelles ou psychologiques, on est dans une emprise. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, t'as pris conscience qu'il fallait sortir de cette emprise, ou tu es sorti de cette emprise qui a permis ce déclic, ce qui est le problème majeur de beaucoup de personnes, qui en plus de devoir faire face à des troubles dépressifs, addictifs, tout ce que tu veux, trouve le moment justement de sortir de cette emprise psychologique finalement. Et puis, on est victime quand on subit quelque chose, mais à un moment donné, peut-être aussi vouloir sortir de ce statut de victime, parce qu'on doit pas être victime à vie, pour reprendre aussi son chemin personnel. Donc, il faut pas vouloir enfermer les personnes dans ce statut de victime à vie. Je pense que ça, c'est important. Et puis aussi, il y a... quand on a été victime, il y a un facteur qui est important, c'est que beaucoup de victimes ont besoin de reconnaissance de la vérité qu'elles n'obtiennent jamais. Et je vois la différence entre ma mère, qui a été donc victime de son père de violences sexuelles et physiques et psychologiques, a été dans une reconnaissance toute sa vie, et pour elle, ça a été une double peine, hein, parce qu'elle n'a jamais eu la vérité de la bouche de son père, bien qu'elle lui ait demandé. Il a balayé ça d'un revers de bras. Donc toute sa vie, elle a attendu une reconnaissance qu'elle a jamais eue. Contrairement à mon père de cœur, qui a aussi été un enfant maltraité puisqu'il est parti de chez lui très tôt. À cause de ça, il a jamais revu ses parents. Mais lui, il a décidé de partir. Il a fait un choix. Il a plus jamais revu ses parents. Il a fait ce choix. Il a pas été dans l'attente d'une reconnaissance de quelque chose. Et je pense que d'être dans la reconnaissance de l'acte ou de ce qui s'est passé, d'être dans cette attente, c'est une double peine que vivent les victimes aussi, que bien souvent elles n'ont jamais de réponse à ça. Donc c'est une force, après c'est en fonction de chacun aussi, et de l'état dans lequel on est pour s'en sortir. C'est pour ça que se faire aider, c'est quand même très important, mais comme tu dis, je pense qu'à partir du moment où on a compris qu'on sortait de l'emprise et qu'on l'a décidé, parce qu'on peut aussi décider pas mal de choses, hein, le mental est très puissant, la pensée est très puissante, on change de statut à ce moment-là aussi, mais c'est très complexe pour beaucoup de personnes qui ne trouvent pas cette clé.
C'est ce qui rend complexe la sortie de l'emprise. On revient à des sujets dont on a déjà parlé dans l'épisode, c'est ce lien de la famille, quoi. C'est-à-dire, et c'est aussi ce truc de
qui de mieux pour un enfant que ses parents pour le protéger? Personne. Donc comment peut un enfant qui se rend compte un jour adulte ou adolescent qu'il a été maltraité, abusé par un parent, comme ça détruit en lui toute la notion de filiation, d'amour parental, de schéma, enfin c'est très destructeur pour l'enfant.
Ouais, c'est ce que j'ai vécu.
Voilà.
C'est ce que j'ai vécu. Pour moi, c'était ça a été une explosion, le ciel m'est littéralement tombé sur la tronche, et parce que en l'espace de... Ça se fait par palier de décompression, comme moi, en tout cas chez moi, c'est fait par palier de décompression. En plus, je vivais sous le même toit avec elle, donc et je venais de découvrir ce double visage, quoi. Je découvre une mère froide, sans émotion, sans aucune vibration, qui me nie du jour au lendemain. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui est vertigineux, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Cette mère qui a eu cette image-là pendant 25 ans. Que j'ai suivi, et donc tu te refais tout le film de ta vie, quoi. Tu te dis, putain, mais ça, c'était faux, et quand elle parlait de ça, c'était faux, et tout était faux, et tout n'était qu'une pièce de théâtre, et j'ai vécu dans un mensonge permanent, et donc ça, c'est vertigineux. Ça, c'est vertigineux, parce que tu te dis, mais putain, je suis qui, moi? Je suis qui? Genre, d'abord, c'est ça, je suis qui? Et puis après, la question, c'est, ouais, mais j'ai pas le choix que de partir. Mais partir, c'est... Je suis tout seul, moi, après. Mon papa absent n'a jamais été une ressource pour moi. Et si je quitte ma mère, je comprends que je quitte tout l'environnement et toute la famille. Je suis seul au monde.
C'est pour ça que la plupart des enfants sont prisonniers, n'ont pas le choix, quoi. Enfin...
Ouais, c'est ça. Mais et donc là, cette deuxième chose je me rends compte que si jamais je dois partir, je suis seul au monde. Et d'un autre côté, c'est ce que des fois j'appelle un peu cette espèce de... Il y a une forme de suicide, en fait. T'es obligé de sauter dans le vide Et c'est comme si tu devais t'arracher une partie de toi volontairement et consciemment pour pouvoir survivre. C'est un peu bizarre, je sais pas comment le décrire, mais c'est comme si j'avais dû, tu sais, dans certains films fantastiques, genre il faut, je sais pas moi, se laisser aspirer par une plante et se laisser mourir parce que de l'autre côté, bah c'est ça le secret pour passer de l'autre côté. Bah moi c'était vraiment ça. J'ai le déchirement que j'ai dû créer, parce que c'était un déchirement, c'est ça le mot, le déchirement que j'ai dû créer pour m'arracher de la relation avec ma mère, il y a quelque chose de l'ordre du morbide, quoi. C'est l'arrachement d'une partie de moi, et de lui laisser un truc comme ça, tu vois, comme si t'arrachais un morceau de peau et que tu le laissais au milieu du salon. J'ai vraiment une image très très dégueulasse de ce moment-là. Et je comprends pourquoi c'est difficile, du coup, de sortir d'une emprise, et pourquoi autant de gens, parce qu'évidemment moi, avec cette posture-là aujourd'hui, bah, n'importe qui est sous emprise, je le vois à des kilomètres et je le sens et je sais et je me rends compte dans la société qu'il y a plein de gens qui sont dans le cas, et des enfants qui suivent un petit peu, qui sont sous des emprises plus, enfin, des fois il y a des emprises modérées, c'est-à-dire qu'il y a plus la violence, mais que le parent a l'emprise psychologique et qui, voilà, il a la main mise un peu sur les décisions de la fille, du fils, du futur mariage, des enfants. Enfin voilà, c'est des trucs un peu discrets qui sont plus de l'ordre de l'enfant, de la violence factuelle. Mais tout ça, je le vois et je comprends pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à s'en sortir. Et d'un autre côté, c'est compliqué à gérer pour moi qui vois ce truc-là et que ça me rappelle. Bon, maintenant j'ai plus de recul, mais je comprends, parce que moi, ça, je suis passé. Je sais pas si miraculé c'est le bon mot, mais j'ai mis ma vie carrément, quand même sacrément en danger pendant cette période-là. J'aurais très bien pu ne pas être là aujourd'hui pour pouvoir en parler, tellement cette phase-là de découverte, de compréhension, de décompensation et
C'est pour ça que en dehors des cas de parents, en dehors des cas de pathologie, voilà, des parents qui sont très défaillants psychologiquement, et qui peuvent pas faire autrement, on va dire, pour ceux qui sont pas dans ce cas-là et qui écouteront ce podcast, il faut détecter aussi quand on va un peu trop loin. Il faut savoir se faire aider aussi, pas avoir peur de demander de l'aide aussi pour changer de comportement en tant que parent, ça c'est important. Mais c'est clair que tout parent a un pouvoir sur l'enfant, et aussi autant le pouvoir de le faire grandir de façon merveilleuse, autant le pouvoir destructeur. Et qu'un parent qui prend l'enfant pour rival, qui va l'humilier, le rabaisser en permanence, combien j'ai connu d'hommes aussi qui à l'âge adulte n'avaient pas confiance en eux, qui parce que les pères les avaient écrasés étant enfants, enfin voilà. Donc tous les gens qui ont ce comportement par un vécu aussi, ils ont leur histoire, ils ont peut-être aussi sûrement d'ailleurs une histoire derrière négative. Mais il faut en prendre conscience, se faire aider et arrêter, parce que sinon on reprojette toujours le même schéma et les enfants peuvent répéter le même schéma sur leurs propres enfants. Enfin voilà, ça peut être interminable. Donc il faut avoir cette conscience-là et se faire aider à temps pour pas que, déjà pour soi-même et puis pour tous ceux qui nous entourent, quoi.
J'avais une dernière question par rapport à une chose que tu m'as dit la dernière fois. Tu vois, on est plusieurs à, bah, il y a plein de gens, en tout cas, il y a des gens qui témoignent, il y a visage découvert, des violences qu'ils ont subies, etc., de la part des parents. Et moi, je te mentionnais, tu vois, j'ai toujours un petit peu, de moins en moins, mais je l'ai eu beaucoup au début, cette idée que, bah, il puisse y avoir des répercussions. C'est-à-dire que les gens dont je parle, sans spécialement citer leur nom, parce que je les cite pas ad hominem. Malchance pour ma mère, elle a pas voulu que je porte le nom de mon père, donc elle m'a donné son nom. Donc chaque fois qu'elle entend parler de moi, elle entend son nom, mais ça c'est de sa faute. Sinon, en gros, il y a pas de, enfin tu vois, il y a pas, personne peut faire de lien à part les gens qui la connaissent et qui connaissent mon nom à moi, voilà. Mais ce que tu m'avais dit, non, je pense pas que, même si elle voit, parce qu'elle a vu, elle écoute certainement pas tout ce que je fais, mais je sais qu'elle a vu mes textes, les premiers trucs que j'ai publiés où j'explique l'emprise, où j'explique les choses de manière factuelle, etc. Je sais qu'elle les a vus parce que elle a mis un like sur une des publications que j'avais fait. Et toi, tu m'avais dit que t'avais pas le sentiment que bah, que ce genre de personne ou que dans ce genre de situation, il pourrait y avoir des répercussions. Tu m'as notamment dit bah, qu'elle aurait peut-être déjà fait si ça avait été le cas. C'était quoi ta pensée par rapport à ça? Comment est-ce que tu penses que l'agresseur se sent et se comporte lorsqu'il voit une... voit l'autre comme une victime ou comme sa proie, je ne sais pas. Mais comment est-ce que tu penses qu'il se comporte et qu'il réagisse quand tu vois ça?
Je pense qu'il y a des degrés différents de comportement selon l'état pathologique des personnes aussi, hein. Mais je pense que, comme je te l'ai dit, le fait que tu fasses ce que tu fais aujourd'hui, moi, ce que je fais, plein d'autres, qui peut-être de l'ordre de la mission, j'en sais rien, mais en tout cas, qui répondent quand même à un besoin et qui veulent aussi faire changer les choses dans ce monde. Je pense que qu'elle entend et qu'elle voit sûrement ce que tu fais aussi, et que moi je connais pas son histoire, elle a forcément une histoire qui induit son comportement, et c'est pour ça que c'est toujours important de connaître l'histoire aussi quand c'est des gens proches. Ça veut pas dire qu'on dit ok, bon bah c'est pas grave, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça aide pour soi-même aussi à comprendre les choses et à se reconstruire. Mais ça fait partie peut-être de sa propre reconstruction à elle, ce que tu fais, inconsciemment ou consciemment, et ça l'aide aussi peut-être quelque part, on ne sait pas en fait, mais je pense que ça a un impact positif aussi pour elle, malgré tout, et il faut toujours se donner, moi tu vois ma mère, on est parti en paix, parce que un mois avant qu'elle meure, après m'en être occupée pendant presque 2 ans, elle a reconnu qu'elle n'avait pas été une bonne mère, qu'elle n'avait pas su m'aimer comme il fallait, et le dernier mois avant qu'elle meure, elle avait complètement changé de comportement, elle m'a dit des choses qu'elle m'avait jamais dites en 50 ans. Donc, il faut quand même toujours, malgré tout, garder un espace possible de réparation pour tout le monde, parce que je pense que ta mère, elle a souffert aussi, hein, quelque part, faut pas négliger ça, et cette opportunité que tu offres aux personnes qui t'écoutent, tu lui offres aussi cette opportunité d'un retour sur elle-même. Et je pense que ça a un impact positif aussi pour elle. Ce qui n'enlève rien au vécu, comme tu l'as dit, hein. Mais comme, encore une fois, chacun son histoire. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont des mauvaises histoires et qui répercutent comme elles peuvent, et souvent mal, sur leurs enfants, leur propre histoire. Donc, je pense que c'est un côté bénéfique aussi pour elle. Et c'est pour ça que tu vas continuer, le faire librement et aider toutes ces personnes qui en ont besoin. Malgré tout, c'est important ce que tu fais pour tout le monde, pour les victimes et pour celles aussi qui peuvent agir de façon négative et changer de comportement. En fait, ce qui est important, c'est le jour où, quand on fait une thérapie en général, où on y va pour se libérer, évidemment. Mais le jour où on a compris qu'on a été défaillant, ça change beaucoup de choses. Et je pense que ce que tu fais, ça contribue à cette compréhension. Pour elle aussi.
Ouais, c'est vrai que moi, j'ai du mal un peu à, enfin, pour connaître par cœur le personnage, j'ai du mal à imaginer cette capacité de remise en question et de compréhension. Vraiment d'un point de vue pathologique, c'est le rejet face à tout ce qui n'est pas dans sa structure, quoi.
Oui, puis après, il y a des personnes qui changeront jamais, qui sont tellement abîmées, qui auront fonctionné toujours dans ce schéma-là, qui se seront protégées d'autres choses et qui ne sauront jamais se comporter autrement. Pour elles, c'est fini, c'est possible aussi, hein.
C'est vraiment ce que tu dis, c'est de la protection finalement. On en avait parlé avec Steph Lacoach, on a fait un épisode sur les parents dysfonctionnels, etc. Et on parlait de la théorie polyvagale justement et des différents états dans lesquels on va être par rapport aux réactions de l'extérieur. Et donc c'est le système nerveux qui met en place des réactions de sécurité.
Et puis t'as des personnes qui se construisent une carapace, qui se construisent quelque chose, en tout cas des personnes violentes, qui entendent quand même ce que tu dis, qui peuvent entendre, mais qui ne peuvent pas changer, parce que si elles changent, elles s'écroulent et elles veulent pas s'écrouler. Donc c'est très très complexe, il y a X cas de figure, donc elles restent sur leur position parce que sinon elles veulent pas s'écrouler et se remettre en question, ça serait beaucoup trop compliqué plutôt que de continuer comme elles l'ont fait depuis toujours.
C'est ça, et c'est exactement le cas. Donc intéressant. Je sais pas où ça me mènera, ni si l'histoire avec ma maman est véritablement définitivement finie jusqu'à jamais. J'en sais rien. En tout cas, je sais que le jour où moi j'ai dû mettre un terme au contact, c'était ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, j'ai une position plutôt neutre, c'est-à-dire que ça m'affecte beaucoup moins et je l'ai plus en tête dans ma vie de tous les jours, quoi, tout simplement. Mais on verra si à l'avenir quelque chose se fait, se met en place. Si moi j'ai envie d'un jour.
Il y a une chose importante, ouais, qu'il faut se dire aussi. On n'est pas obligé d'aimer ses parents. L'inverse c'est moins vrai. Mais on n'est pas obligé d'aimer ses parents, on n'est pas obligé de devenir ce qu'ils veulent qu'on devienne, et le fait de se dire à un moment donné, quand on est capable de le faire, ce qui demande un travail, un chemin aussi, je te rends ce que tu m'as donné qui ne m'appartient pas. Franchement, ça change aussi les choses pour soi, et il faut le faire pour soi. On n'est pas redevable. La redevabilité envers les parents, elle est infinie. Tous les enfants se croient redevables de quelque chose. Non. On est redevable de rien. C'est eux qui ont fait le choix de nous donner la vie. On n'est pas redevable de nos parents. Il faut se dire ça aussi. Je crois que c'est une chose importante.
Eh ben, c'est une super note de fin.
Sa vie, c'est pour soi. La vie qu'on se construit, c'est la sienne.
Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est une belle note de fin pour notre échange.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce que tu fais et de m'avoir donné ce temps de parole, qui j'espère aura une portée pour certains. C'est important de pouvoir en parler. Ouais.
J'en suis sûr, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, c'est là que ma messagerie s'active le plus. Donc, j'ai aucun doute que ça pourra aider, éclairer certaines personnes. Encore merci, Nathalie.
Bah, merci à toi, Gabriel. Merci beaucoup.
Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
Toi aussi, plein de bonheur. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet t'aura plu. Comme d'habitude, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée et de venir me rejoindre sur Instagram à te sortir de l'addiction si tu as envie de voir les coulisses du projet et éventuellement de discuter avec moi, de me poser l'une ou l'autre question à laquelle je peux répondre dans la mesure de à la fois mes compétences et du temps disponible que j'ai. D'ici là, je te souhaite une super bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée en fonction du moment où tu auras écouté cet épisode. Et je te dis déjà à la semaine prochaine pour le 49e épisode de Sortir de l'addiction.